J'ai des copains qui travaillent à Cégélec dans le Nord et Cégélec c'est une grosse entreprise et ce copain qui travaille à Cégélec m'a appris qu'il y a de plus en plus d'employés, d'ouvriers qui se suicident à cause donc du harcèlement au travail, à cause des conditions de travail et aussi de la peur du licenciement. Alors voilà, le monde dans lequel on est et ce qui me dégoûte aussi, c'est que les gens n'osent même plus signer de pétition, n'osent même plus s'engager dans des comités de soutien. Là, je le vois dans le comité de soutien pour justement l'entreprise Altadis de Lille. Il y a plein de gens qui n'ont pas osé donner leur nom à cette liste. Enfin voilà. Alors salut et à bientôt. Au revoir.
Oui, salut Daniel. C'était pour te signaler que les Roms sont toujours là à Saint-Maur. La permanence est ouverte à tous ceux qui veulent venir au 17 rue André Beaulieu. Ils viennent en toute sécurité puisque le terrain est sérieusement gardé par la police municipale que je vois là en face et qui est là 24 heures sur 24. Et puis demain, il y aura un rassemblement à nouveau sur le terrain. Les toilettes ne sont toujours pas arrivées, vu que la municipalité s'y est pour l'instant opposée. Alors, arrivée, bien entendu. À bientôt.
Oui, bonjour, Daniel Mermet, Virginie. J'écoute assez souvent votre émission. Je sais que vous défendez la liberté et je voudrais vous faire part de quelques mots de poésie qui résonnent avec une telle émotion sur les événements d'aujourd'hui et qui sont inspirés pourtant de 39-45. C'est un artiste qui s'appelle Jean Goujon qui a une œuvre qui s'appelle Les Chemins de la Liberté qui dit par exemple dans un hommage à Leclerc, il dit il y a du sang d'Afrique dans les veines de la liberté, du sang noir, du sang pied noir, du sang bronzé, du sang de tous les horizons qui fait la grandeur d'une nation. Oui, tous les sangs sont mélangés dans les veines de la liberté. Et rappellent à nos pères que leur père était là et leurs fils aujourd'hui sont bien des fils de France. Il y a aussi de Gaulle à Moulin, ce sont les hommes de l'ombre qui sauvèrent la lumière dans cette époque sombre accablée par la guerre. Tous présents le jour J, armés ou à main nue, se tenant, je vous les cite de mémoire, mais face. Et il y a aussi encore un autre très beau qui s'appelle et qui dit, puisque nous sommes en Normandie, et qui explique pourquoi il pleut si nous si souvent, est-ce pour effacer le sang que des soldats ont versé il y a longtemps.
Voilà, bon, on va y rester aujourd'hui en Normandie, où l'on se prépare, et toute la France d'ailleurs, se prépare à recevoir très bientôt la vedette du film de Michael Moore. Je veux parler évidemment de George W. Bush, qu'on va bientôt recevoir en France, et je sais qu'il y a des cérémonies de toutes sortes qui se préparent, de toutes sortes, hein, de toutes sortes. Alors, avant qu'on apprenne à nos petits-enfants les paroles par cœur de « Si les ricains n'étaient pas là », aujourd'hui, on va aller faire un petit tour, nous, en Normandie, un petit tour, et puis un petit retour en Normandie, autour d'une histoire de réconciliation. Oui, de réconciliation, ça existe la réconciliation, hein. Quand on voit les images qui nous parviennent de Rafah et les nouvelles qui nous viennent de Gaza, on se dit combien de siècles faudra-t-il pour que Palestiniens et Israéliens arrivent à se parler à nouveau. C'est ce qu'on se disait à la libération en 1944. Et puis, quelques années plus tard, pas tant que ça, Allemands et Français arrivaient à se parler. Vous allez voir l'histoire d'aujourd'hui, une histoire de jambon et de poids, zu schwer, ça se dit en allemand, trop lourd. Et puis une petite annonce, un peu dans cet esprit-là, un ami journaliste de RFI est à la recherche de coordonnées. C'est un petit perdu de vue qu'on vous lance aujourd'hui, de républicains espagnols présents lors de la libération de Paris avec la deuxième DB. Voilà, il y avait des républicains espagnols qui étaient avec la deuxième DB. Si jamais vous en faites partie, pourquoi pas? Ou si vos parents, enfin si vous avez des tuyaux là-dessus, vous connaissez le répondeur, le numéro du répondeur de la base CGSP, c'est le 01 56 40 37 37. Beaucoup de messages par ailleurs sur le reportage enquête d'hier de Thierry Scharf sur l'imam de Vénissieux. Ça secoue le pignon. C'est quelque chose qui vous passionne et qui nous passionne aussi.
En fait, voilà, je m'appelle Lydia, j'ai 20 ans, je suis d'origine kabyle. Je suis de la troisième génération, donc mes parents sont français, je suis française et je suis en pleine recherche identitaire en fait, parce que je connais à peu près mes origines et que je me considère comme française, mais le problème c'est que je me fais encore traiter de sale arabe et ça arrive aussi à mon frère et à ma famille en général. Donc quand on se sent rejeté du pays dont on fait soi-disant partie et que on ne sait pas trop d'où on vient, quand il y a des gens qui nous proposent des choses comme des choses religieuses, c'est un lien avec ses origines, on suit même si on ne sait pas et nous donne l'impression de, je sais pas, comme si on faisait partie de quelque chose en fait. C'est ce qui incite certains jeunes, voilà, comme moi. Enfin, moi je suis assez méfiante au niveau de la religion, donc j'y vais pas, mais des jeunes plus sensibles que moi à aller vers des choses un peu plus dangereuses. Donc au lieu de tout rejeter en bloc, comme certaines personnes le font, je pense qu'il faudrait plutôt essayer de comprendre pourquoi, c'est qui ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font, et voilà. Ben écoutez, je vous remercie et au revoir.
Bonsoir là-bas, si j'y suis. C'est Jean-Louis Distre dans les Bouches-du-Rhône. Je viens d'écouter l'émission sur l'imam de Vénissieux. Bon, je voulais faire une remarque générale. De tout ça, il ressort qu'il y a quand même interférence entre le politique et le religieux. Interférence de plus en plus profonde et de plus en plus précise. Voilà. Par exemple, il me semble qu'un des buts de Sarkozy en prenant les musulmans en compte, c'est pour qu'ils ne basculent pas politiquement à gauche, hein, en faisant confiance au côté traditionnel, donc de droite, que pourrait avoir l'islam, je schématise. Et les hommes politiques de gauche, de leur côté, ils sont interrogés par tout ça, mais le passé anticlérical et antireligieux chrétien pose problème. Donc, si tu veux, ignorance et crainte des deux côtés, ignorance et crainte réciproque. Il faudrait faire le point sur cette question. Par exemple, en comparant la croyance religieuse à la croyance politique. Dans ses formes staliniennes, par exemple, qui ressemblaient fort à une religion. Et là, je voudrais te mettre sur la voie du philosophe Alain Badiou, dont ce n'est pourtant pas la spécialité. Il pourrait dire des choses intéressantes à ce sujet du côté politique. Un peu comme Bruno Étienne parle intelligemment, mais prudemment, du phénomène religieux islamique, mais il reste dans un domaine purement religieux, sans oser intervenir dans le politique. Voilà.
Salut Daniel, à t'entendre, il y aurait un fantasme des préjugés liés à l'islam. Pourtant, quotidiennement, depuis de trop nombreuses années, il est possible de vérifier l'intolérance, l'intégrisme, le comportement délinquant, pour ne pas dire criminel, agressif, de cette religion. Et il faudrait les excuser, les plaindre, ne surtout pas les diaboliser. J'étais de gauche, me voilà devenu extrémiste de droite. J'espère que vous m'excuserez, que vous me plaindrez, et que surtout, vous ne me diaboliserez pas. Aucune excuse n'est permise concernant ces fouteurs de merde, et qui sème le vent récoltera, je l'espère, la tempête.
Bonjour, suite à l'émission de lundi sur l'imam de Vénissieux, je voudrais lire quelques extraits d'un article qui a été publié par le Collectif National pour les Droits des Femmes, qui est paru dans Libération le 21 mai. S'indignant des propos de M. Bouziane, M. Perben affirme travailler pour faire reculer cette ignominie que sont les violences faites aux femmes. Il serait bon dans ce cas que ce travail ne serve pas d'alibi à nos gouvernants pour apporter leur contribution à la croisade internationale contre l'islam, ni pour mener leur politique sécuritaire et de restriction des libertés. Car tout réactionnaire et misogyne qu'il est, M. Bouziane a droit à un procès s'il tient des propos contraires à la loi. D'ailleurs, M. Perben termine sa tirade en précisant qu'il appartient à la justice de dire qu'on ne peut pas tenir de tels propos. C'est bien là le problème. La justice ne permet pas de condamner les propos sexistes pour la simple et bonne raison que ce n'est pas interdit par la loi. Fort heureusement, le racisme est un délit. Pas le sexisme, ni la lesbophobie, ni l'homophobie. Jusqu'à quand ?
Moi, je suis enseignant dans une zone plus que sensible de la région parisienne et je témoigne à mon petit niveau et sans vouloir faire d'amalgame d'une montée non pas de l'islamisme mais de l'obscurantisme chez mes élèves de collège qui tendrait à les emmener vers une forme d'intégrisme. En particulier mes élèves de confession musulmane qui sont majoritaires dans mon établissement. Je ne nie aucunement ni les causes sociales ni les causes économiques à cette montée de l'obscurantisme, bien évidemment, et on est en droit de s'en inquiéter.
Toutes tes lettres que tu m'as écrites pendant la guerre.
Ah oui. Ben, je sais que tu me restes fidèle, hein. C'est par les lettres qu'on s'entretient. C'est avec tous ces petits Canadiens là, c'est qui couraient après les femmes.
Hein. Les pauvres Canadiens, ils avaient autre chose à faire que de.
Touche-fer, trop lourd, ça veut dire en allemand, et c'est le mot du jour. Mais aussi jambon, le malheur et la dérision aujourd'hui. Touche-fer et jambon. Mais 1945, plus d'un demi-siècle après, en Normandie, un Allemand, soldat alors de la Wehrmacht, revient rendre un jambon volé dans une cheminée. Impossible réconciliation, tandis que le temps et la mer effacent sur le sable le pas des Allemands d'aujourd'hui. Une heure à la mémoire d'un temps où le malheur lui-même était dérisoire, comme la vie, dérisoire, la vie. 50 millions de vies humaines, c'est ce qu'il avait fallu pour arriver à ce 8 mai 1945. Fête de la victoire dans les rues et dans les rues, ruse de l'histoire, rue des mémoires. À la radio, tout à l'heure, j'ai mal entendu, ou était-ce un lapsus, célébrer la paix, j'ai entendu. Célébrer la pêche. La pêche ou la paix, ça a le même sens aujourd'hui, indifférence, abstention du passé, dépassé. 50 millions, il avait fallu, dont 20 millions de soviétiques. Et en ce beau mai 1945, les premiers rescapés des camps de la mort arrivaient à Paris, à l'hôtel Lutetia. Touche-fer, rescapés de l'effroi. L'horreur n'apprend rien, on le sait. Mais pour autant, est-il vrai que nous n'avons rien appris, rien compris? La conscience humaine n'est-elle que cette loupiote incertaine que les ténèbres toujours s'apprêtent à engloutir, qu'un souffle peut détruire, un crachat, une soumission, un sommeil, un mot en l'air, ou bien une partie de pêche, ou bien un simple manque d'amour, ce qui serait un fragment de néant, qui, pour protéger cette lueur improbable, apporter l'huile aux lampes, comme l'eau au moulin, qui pour veiller, penser, rêver et dire non, non à l'asservissement. À qui incombe ce rôle, ce devoir, ce droit? Qui en a le pouvoir? Chacun, pas seulement le politique, l'expert, l'érudit, le spécialiste, le grand militaire, le héros de la dernière, l'intello. On sait comment l'élite s'est trompée et nous a trompés. Alors, sur qui compter? Poète, artiste, à qui s'en remettre? Au bon sens paysan, au prolétaire, ou bien au petit peuple, comme disent les gros vox populi, vox dei? À qui? Au curé, au pape, au bon Dieu et à ses saints? Non, bien sûr. Non, aucun. Aucun n'est ce chacun. 45, la victoire, la mémoire ne retient que quelques malgré tout, car il y eut ces malgré tout, ces quelques rares et beaux malgré tout pour sauver la famélique lanterne. Aujourd'hui, tant de temps après, nous vivons de toute autre tyrannie, plus douce et d'autant plus menaçante, et d'autres périls, d'autres malgré tout sont là, parmi nous, parmi chacun. À eux, jusqu'à 18h, est dédiée cette tranche de jambon. Salut, c'est Daniel Mermet avec Thierry Scharf. Là-bas, j'y suis.
Flight number 2, arriving from...
L'Allemand, il a volé un jambon à Madame Marie. Et comment... Et il va lui ordonner un. Le jambon, il doit être moisi. Il doit être moisi, le jambon, parce que ça fait très longtemps, et puis...
Non, c'est un nouveau, c'est un propre.
Oh, je sais pas.
C'est l'histoire du jour où le jambon tomba. C'est un jour de juillet 1944. C'est ici, c'est en Normandie, un petit patelin qui s'appelle Tilly-la-Campagne, dans le Calvados, au sud de Caen, dans la région d'Argence. Un petit événement pour un petit pays. Hans, lui, le jambon, lui restait en travers de la gorge, en forme de remords, en forme de tranche de vie de sa vie, forme de tranche de jambon aussi. 55 années plus tard, Hans Cooper Fahrenberg, alors soldat de la Wehrmacht, est revenu à Tilly-la-Campagne. C'était le 10 avril dernier pour rendre, pour restituer le jambon qu'alors il avait volé. Il l'avait volé à Madame Marie, la fermière. Retrouvailles, réconciliation, que reste-t-il de nos amours? On s'est posé la question, mais que reste-t-il de nos haines? Qu'on se fasse l'amour, qu'on se fasse la guerre, qu'en reste-t-il? Mémoire enfouie, mémoire enfouie, aujourd'hui, l'histoire du jour où le jambon tomba.
Ah ben ça fait un moment que, depuis bon, cette histoire-là, depuis que vous l'aviez apporté argent, ça faisait un petit peu de bruit dans le pays. Ils disaient oui, ils vont revenir, tout ça et tout, les journalistes vont venir, tout ça et tout.
On a dit on verra. Ça fait de l'animation.
Ça fait un petit peu d'animation, oui, comme je vous dis. Bon, puis pour nous, vous dites, ça fait une petite fête. On finit par le restaurant ce soir et ça fait une petite fête sympa. Pour tous, on va pouvoir en rediscuter après, tout ça et tout, ouais, avec mon mari et tout. Ah oui.
Bah oui, bah oui. Nous voilà là, à Tilly-la-Campagne. Et pourquoi donc? Parce qu'il y a un drôle d'événement. L'événement, c'est un homme qui a aujourd'hui 75 ans et qui s'appelle Hans Cooper Fahrenberg, qui était soldat alors, en ce juillet 44. Soldat de la 21e division blindée de la Wehrmacht. Qu'est-ce qui s'est passé en ce juillet 44? Eh bien, il y avait quelques soldats allemands qui sont rentrés dans une ferme et qui ont demandé à manger. Et la fermière leur a offert, donné, comme vous voudrez, faut bien écouter pour comprendre si c'est offert ou donné sous la menace, des œufs à manger. Les œufs, ça se fait cuire. Elle les a fait cuire dans la cheminée. Or, à un moment, qu'est-ce qui est tombé dans la cheminée dans un grand bruit? Un jambon qui y était caché. Les soldats allemands se sont emparés de ce jambon et l'ont mangé. Mais, l'histoire veut que, face aux yeux éplorés de la fermière, l'un de ses soldats est coupé une tranche de jambon et lui offert et donné à la fermière, donné ou offert, on verra, une tranche de jambon. Voilà comme l'histoire avec le temps, 55 années est passée d'une petite anecdote à une légende. En tout cas, c'est quelque chose qui a travaillé 55 ans durant la mémoire, la conscience de ce soldat allemand. Il a voulu revenir dans ce village. Il est venu l'année dernière et il a rapporté un jambon. Il a rapporté un jambon et pour l'offrir aux gens du village. Il est allé le porter à l'hospice, à la maison de retraite, disons. Et la presse locale s'est fait l'écho du geste de cet homme. Et voilà Tipa, que une personne s'est reconnue dans cette histoire. Et cette personne, c'est Madame Marie. Et qui était Madame Marie? Eh oui, vous avez deviné, Madame Marie, c'était la fermière de juillet 44. Et aujourd'hui, voilà que Hans va, dans quelques instants sous nos yeux, retrouver Marie. Rencontre avec Hans.
Ich bin oft danach gefragt worden, aber die Situation war so. Was ich im Herzen, im Inneren hatte, das war nicht, dass wir den Schinken gegessen haben. Das war eine alltägliche Sache, die an der Front im Krieg passiert. Mhm. Aber was für mich gravierend war, was wehgetan hat, dass diese Frau mit einem kleinen Teller kommt und bittet, etwas mitzubekommen. Mhm.
Ce qui m'a poussé donc à faire ce geste, c'était en fait pas tellement le fait que nous avons mangé du jambon ce jour-là, parce que c'est quelque chose, faut bien s'imaginer, quand on est réaliste, qui arrivait quotidiennement sur le front. On se ravitaillait comme on pouvait. Mais en fait, le souvenir vient plutôt de l'apparition de cette dame avec... l'apparition, la réaction de cette dame qui est venue à un moment avec son petit plat, sa petite assiette, la réclamer gentiment, poliment et modestement sa part. C'est plutôt ça qui m'a fait mal au cœur.
Man muss ja alles verarbeiten, was man im Krieg erlebt hat. Und das dauert eine lange Zeit. Das kann man gar nicht verarbeiten.
Digérer plus ou moins ou sublimer tous les événements qu'on a connus dans la guerre ou dans une guerre, ça prend quand même beaucoup de temps.
Und an dieser Schinken-Situation ist mir nur das stark geblieben, dass diese Frau Angst haben musste. Es kommen so 10-12 Soldaten rein, fremde Männer, die sehen nicht sauber aus, wir waren schmutzig. Und sie kommen da und arbeiten in ihrer Wohnung.
Le jambon, le jambon, en définitive, ça n'est qu'un symbole de ce qui s'est passé ce soir-là. Ce qui s'est passé, la réalité, vraiment, c'est que cette dame a eu peur. De 10 à 12 personnes qui sont arrivées là, 12 hommes, poussiéreux, fatigués, fort probablement un peu excédés par ce qu'ils vivaient. Et c'est de cette peur, c'est de cette panique dont il se souvient plus particulièrement.
Ich kann mich erinnern, die Frau kam etwas gebückt, also in einer Stellung, dass sie sagen würde, bitte. Kann ich etwas bekommen mit dem kleinen Teller?
Je me souviens donc de son attitude, elle était un petit peu voûtée, un peu courbée, et est arrivée en demandant, s'il vous plaît, puis-je avoir un petit peu de ce jambon.
Mais alors vous, à cette époque-là, vous êtes un tout jeune homme, quel âge vous avez quand vous arrivez là à Thiel, la campagne là?
19 ans, j'avais 19 ans.
Ich war noch keine 18 Jahre, musste ich im Arbeitsdienst. In Deutschland hatte man Arbeitsdienst, anschließend sofort zum Militär, ohne freiwillig, also Zwang.
J'avais à peine 18 ans que j'ai dû j'ai été engagé dans le service du travail, puis ensuite à 19 ans, je suis passé directement au service militaire. C'était absolument obligatoire.
Et vous n'aviez pas le choix.
Die Wahl zwischen Tod und Konzentrationslager.
Si, le choix, c'était soit aller à la guerre, ou alors la mort et le camp de concentration.
Für mich war der Krieg verloren.
Pour moi, la guerre était perdue.
Es war ein Überlebenswille.
Il s'agissait plus que de survivre.
Ich hatte eine Erziehung zu Hause, die war nicht nationalsozialistisch.
Mon éducation à la maison n'était absolument pas national-socialiste.
Sie war mehr christlich ausgerichtet.
Elle était plutôt chrétienne.
Und das deutsche Volk war im Allgemeinen, kann man sagen, war es hinter Hitler gestanden. Die überwiegende Mehrheit, nicht alle.
Mais il faut avouer que à cette époque, il y a quand même eu une grande majorité de la population allemande derrière Hitler.
Et qu'est-ce que vous avez fait durant votre vie après la guerre?
Ich war vor dem Krieg bei der Eisenbahn und bin nach dem Krieg wieder bei der Eisenbahn angefangen.
Avant la guerre, j'étais dans le train à la SNCF et après la guerre, pareil.
Ah, vous étiez cheminot alors?
Jusqu'à la fin.
Mm-hmm. Mais alors, vous avez voyagé alors?
Ja. Ja.
Vous avez l'occasion de revenir en France depuis?
Ich hätte viel gelesen, bin auch nach Frankreich gefahren, aber dann Südfrankreich mit Jugendgruppen.
J'ai eu pas mal d'occasions, mais essentiellement vers le sud de la France avec des groupes de jeunes.
Donc vous n'avez pas voulu revenir tout de suite, ça vous est pas venu à l'idée de revenir ici rapidement, dans cette région-là de France?
Nein, ich hatte erst nicht vor, in die Normandie zu gehen, es war zu schrecklich in die Normandie.
Je n'ai pas voulu revenir tout de suite parce que mes expériences étaient vraiment trop terribles, trop affreuses.
So schlecht, ja. Ich brauchte eine lange Zeit, um das zu verarbeiten. Mhm. Und bin dann gefahren, um die Gräber zu besuchen, die Kriegsgräber.
C'était vraiment trop dur. J'ai mis pas mal de temps pour digérer tout ça. Et en fait, mes premières démarches étaient pour retourner sur les tombes.
Vous avez vécu quoi ici précisément? L'enfer ou un peu moins?
L'enfer.
Es waren täglich Tote. Man sieht täglich Tote auf die schrecklichste Art und Weise.
C'était la mort quotidienne. Tous les jours, on voyait des morts. La mort était partout.
Zu schwer.
On fait une pause.
D'accord.
Es ist zu schwer. C'est trop lourd. Je sais pas si Madame Marie, qui aujourd'hui a près de 90 ans, connaît ces mots d'allemand. Pourtant, à l'époque, elle les a entendus. Elle les a entendus autour de sa ferme. Et surtout en cet été de 1944, alors que les armées allemandes fuyaient à travers la Normandie. Aujourd'hui, Madame Marie, donc, qui s'est souvenue que c'était elle, la fermière, qui avait accueilli ces Allemands de la Wehrmacht, ces soldats de la Wehrmacht, poussiéreux, s'est souvenue, eh bien, elle attend. Elle est chez elle, et dans quelques instants, Hans va la rencontrer. Ils vont se rencontrer tous les deux, mais d'abord quelques instants avec Madame Marie.
Alors, Madame Marie, vous êtes dans votre cuisine, vous attendez?
Comment?
Je dis, vous êtes dans votre cuisine, vous attendez, Hans?
Ah oui, on attend, oui, parce qu'on doit le recevoir là, à la porte de la cuisine.
Vous êtes fait toute belle, hein? Si, vous êtes belle, hein, avec une belle toque de fourrure.
Voilà. On va essayer de se mettre propre, comme d'habitude.
Et la famille autour, là, dans la cuisine, c'est...
Mon fils, oui. Et puis un petit-fils. C'est un grand événement.
Il y a des journalistes qui sont dehors, là.
Oui, pareil.
Vous êtes un peu ému, là, de revoir ce soldat allemand?
Vous savez, je vous dirais franchement que je ne me rappelle pas du tout. Car ce jour-là, on partait, on avait qu'une hâte, c'était de filer tellement on avait peur. Mmh. On était sous les bombardements que ça tombait comme... Alors on n'avait qu'une hâte de partir. Mmh. On ne craignait pas beaucoup.
Oui, j'imagine.
Enfin... Ça, c'est du passé. Je suis contente de faire la réconciliation.
Ah oui.
Il vient pour ça, principalement. Il croyait avoir, nous devoir quelque chose en ayant mangé le jambon.
Ouais.
Alors, il vient essayer de réparer, mais il est tout pardonné, bien entendu. Parce que on y pensait seulement plus à ce jambon-là, vous savez. Qui est tombé dans leur poêle. Ouais. Vous qu'on a...
Ah,
bonne maman, votre manteau.
Il y a la voiture qui arrive, là.
Oui, je pense.
Attendez, oui. Votre... L'écharpe, s'il vous plaît.
Je vais te servir de ton appareil, si tu veux. Hein? T'en as beaucoup encore à prendre?
Je vais l'emporter là-bas, quelque fait.
Ah, vous avez pris votre appareil photo, monsieur?
Oui.
Vous avez photographié votre femme?
Voilà.
Passer devant. Voilà, on est juste devant la maison et il y a tout un attroupement de photographes pour la photo de la réconciliation, des retrouvailles.
Voilà, monsieur Hans, je vous présente Madame Marie.
Vous êtes bien aimable de vous déranger comme ça pour nous.
Voilà. Hans plonge dans son sac. où on aperçoit du papier aluminium. Et voilà le jambon. Deux jambons.
Pommery. Wo ist der Dolmetscher? Ich habe zwei halbe mitgebracht.
J'ai ramené deux moitiés de jambon. Une moitié de jambon italien et une moitié de jambon allemand.
Jetzt ist vereintes Europa.
Maintenant c'est l'Europe unie.
Und deshalb ein italienischer Parmaschinken und ein deutscher, allemand.
Voilà. Donc, dans l'Europe unie, j'ai choisi le jambon de Parme et le jambon allemand.
Es hat lange gedauert.
Ça a duré pas mal de temps.
Aber ich hatte keine, Möglichkeit. Ich spreche kein Französisch.
Donc ça a duré. J'ai mis pas mal de temps à revenir, mais je ne parlais pas français.
Mais oui.
Hein?
Ja, wir haben den Ort nicht gefunden. Wir haben sie.
Il y avait un petit ligne de chemin de fer qui passait là.
Wir haben sie nicht gefunden. Der Mark hat viel Arbeit gemacht und dann habe ich gesagt, wenn man die Frau nicht finden kann, dann gebe ich Schinken im Altenheim ab.
J'avais dit, si on ne trouve pas la ferme, je voulais absolument, avec l'aide de Monsieur Marc Jacquinot, au moins remettre symboliquement le jambon dans une maison de retraite. Voilà, c'est ça.
Aber ich gebe gerne nochmal ab.
Eh ben, nous, on va le manger.
Voilà.
Ich denke, die Familie ist groß.
Avec la famille, oui, oui.
Voilà, merci. Je vous donne rendez-vous à la mairie, si vous le pouvez, dans une petite heure, dans trois quarts d'heure.
Merci.
Voilà. Merci, à tout à l'heure.
Un grand moment quand même, c'est beau, hein? Et 55 ans pour s'offrir un jambon. Et alors on voit comment Monsieur Hans est très européen puisqu'il offre pas seulement un jambon de sa Ruhr natale, mais aussi alors un jambon, un morceau de jambon de Parme, d'Italie, parce que c'est comme ça que se fera peut-être un jour l'Europe des peuples. Alors nous voilà, on parle d'Europe des peuples, de rapprochement, de paix. Il est vraiment temps de tendre nos oreilles attentives au discours de Monsieur le maire de Tilly-la-Campagne.
Cher Monsieur Kuper-Farenberg, eh bien c'est donc au nom du conseil municipal de cette petite commune de Tilly-la-Campagne que je suis heureux de vous dire que nous adhérons nous aussi à votre démarche. Et je vous redis tout le plaisir que nous ressentons en vous accueillant dans cette mairie. La paix ne se signe pas seulement d'encre sur le papier, mais de gestes, d'actes, de l'expression de ce qu'il y a dans le cœur de tous. Et avec vous, je le sais, nous exprimons tous ici notre désir d'une Europe solidaire, sachant se préserver des nationalismes excessifs et exacerbés. Ceux-ci nous conduisent, nous l'avons vécu dans notre histoire commune, et hélas, en ce moment encore, vers des conflits qui n'apportent que souffrances et malheurs. Cher monsieur, je vois en vous un messager de la paix, un messager d'espoir, porteur d'avenir. Monsieur Kuper-Farenberg, je vous laisse la parole. Vous avez beaucoup plus à dire que moi sur tout cela.
Merci. Ich habe alles verstanden. Er hat alles übersetzt. Und ich bedanke mich herzlich für die freundliche Einladung.
Je vous remercie du fond du cœur pour cette très amicale invitation.
Und hat auch was gesagt, dass wir ja Zukunftsträger sein sollen für den Frieden.
Il a dit que nous devions aussi être des porteurs d'avenir pour la paix.
Aber lieber Herr Bürgermeister Hü, ich glaube, ich bin schon fast zu alt für Zukunftsträger zu sein.
Mais cher monsieur Hü, je pense être un peu trop vieux pour être qualifié de porteur d'espoir.
Hoffen wir, dass die Jugend die Sache hört und entsprechend handelt.
Espérons que la jeunesse s'en charge.
Aber was wir tun können in unserem Alter, machen wir noch, solange es geht.
Mais ce que nous pouvons faire à notre âge, eh bien faisons-le tant que nous pouvons le faire.
Aber geht's.
J'aimerais une photo de vous, jeune soldat, parce que je suis passionné par les Allemands pendant la guerre, en Normandie.
Diese Foto, normale Foto, nicht mit zu schreiben.
Foto, jeune soldat allemand.
Ja, ja.
Merci. Merci beaucoup.
Petit bémol intrigant, cet adolescent qui vient demander des photos de soldats allemands, fasciné qu'il est par l'uniforme. Est-ce qu'il faut pas s'inquiéter là de voir une fois de plus cette formidable force de renouvellement, cette fascination formidable que nous éprouvons tous pour la guerre. En tout cas, cette scène est évidemment très belle. Le discours du maire, monsieur U, homonyme, de l'autre, est très beau et très émouvant. On a envie de croire ça, on veut être ça, on voudrait que l'histoire soit ça, mais c'est pas toujours aussi facile, c'est pas toujours aussi joli et beau et angélique. Il y a des mémoires qui grincent, il y a des plaies qui n'arrivent pas à se refermer tout à fait.
Vous me disiez à l'instant là que vous étiez
J'ai un père qui a souffert à la guerre, qui a été prisonnier 5 ans, qui a eu des doigts coupés, qui a eu des choses que moi je vois, que j'ai vu en photo, ou que j'ai entendu mes parents, donc j'ai plus de mal. Aujourd'hui j'ai plus de mal, je pense à eux. C'est plus dur. Mais bon, je suis très contente pour monsieur et madame Marie, très contente pour la commune, c'est formidable, puis c'est vrai que tout le monde en prenne un petit peu de la graine, surtout ce qui se passe en ce moment, que ça revienne jamais, surtout ça. La paix pour nos enfants.
Mais quelque part, est-ce qu'il ne faut pas oublier toute cette haine?
Il faut l'oublier, la haine, je crois. Mais on a un fond intérieur qui revient toujours au galop. Hein. Mais il faut oublier, je pense qu'il faut oublier, il faut vivre ensemble.
Le jeu, c'est quand même bon, parce qu'on a certainement d'autres.
Je vous dirais franchement que je ne tiens pas à avoir un dialogue avec lui comme ça, c'est voilà. Tout. Pour le respect de mes anciens.
Voilà.
Le jour où le jambon tomba, c'était en juillet 44, donc où une vingtaine de soldats allemands de la Wehrmacht, affamés, rentrent dans une ferme et demandent des œufs, demandent quelque chose à manger. La fermière leur donne des œufs, les fait cuire les œufs dans une grande poêle, dans la cheminée, et par la chaleur, par les flammes, quelque chose tombe de la cheminée, un paquet, et ce paquet n'est rien d'autre qu'un jambon. Les soldats allemands s'emparent du jambon, le coupent en morceaux pour le manger, mais la dame, la jeune fermière, implore, tend son assiette pour en avoir un morceau. L'un des soldats coupe un morceau, une tranche de jambon, et lui donne. Aujourd'hui, ce 12 avril 1999, le soldat allemand, 55 ans après, est là. Il s'appelle Hans Cooper Fahrenberg. Et la fermière est là. Elle a 86 ans et elle s'appelle Madame Marie.
Vous vous souvenez de cet épisode?
Oh, très bien. Très, très bien. Seulement, je dis, on s'en allait. On laissait tout, bien entendu, toutes nos bêtes, tout. Alors, on pensait pas au jambon, vous savez. Il était une quinzaine affamés, forcément, il faisait du feu. On a entendu le jambon tomber, c'est tout ce qu'on a vu. On croyait pas, je promets.
Et vous viviez de la ferme à l'époque?
La ferme, oui, oui. On élevait beaucoup de porcs. On fait beaucoup de porcs. On n'a jamais vraiment manqué, nous. Parce que dans les fermes, vous savez, on avait du lait, on avait de la crème, on avait du beurre. Oh, oui. Et ces jambons-là, les trois quarts du temps, partaient chez ma famille à Paris, parce qu'ils n'avaient pas grand-chose.
Ah oui. C'est pour ça, alors qu'il était planqué dans le...
Voilà, dans la cheminée. Ah oui.
Vous l'aviez caché?
Y en avait toujours un dans la cheminée qui était pendu parce qu'on faisait du feu pour les porcs pour faire le pour leur faire cuire leur manger. Alors il y avait toujours du feu dans la cheminée et c'est ce qui faisait fumer les jambons.
Ah.
Voilà. Oh non. Oh ben vous savez, ils venaient prendre ce qu'ils voulaient, les Allemands.
Ouais. Et vous avez racketté plusieurs fois?
Oh oui, mais vraiment, pas méchantement. Ils n'étaient pas méchants. J'étais les maîtres, hein, alors on obéissait, puis c'était tout.
Et quand ils venaient comme ça vous prendre de la nourriture, comment ça se passait?
Ah ben, ils nous payaient.
Ah, ils vous payaient?
Ils nous demandaient... Enfin, pas les derniers temps, mais avant, il a cherché une douzaine d'eux, il a payé.
Ah oui, quand même.
Ah oui, on était honnête, vous savez. On vivait comme ça. On a beaucoup plus souffert de l'autre guerre, nous, que de celle-là encore.
Oui.
J'ai beaucoup plus entendu parler de l'autre guerre que de celle-là. C'est bien plus terrible que celle-là encore. Enfin, ils ont fait des atrocités aussi aux Juifs, tout ça. Mais nous, on n'a pas jamais eu de... Et on craignait plus les Français, nous, que les Allemands, vous savez.
Ah oui.
On était plus dénoncés par les Français que par les Allemands.
Et dénoncés de quoi?
Eh bien, j'ai eu un... J'ai jamais su exactement. Je faisais de la farine pour le boulanger. Eh bien, un beau jour, il y en a un qui est venu me mettre... Laissez-les à la farine pour ne plus en faire, parce que j'avais été dénoncé que je faisais de la farine. Et j'ai toujours cru que c'était un ouvrier que j'avais eu qui m'avait... Enfin, pas sûr, hein.
Oui. Parce que cette farine, elle servait à quoi?
À faire du pain.
Oui, mais pour qui?
Ça au boulanger, pour le pays. Un petit supplément, car on n'avait que la ration.
Mais alors pourquoi on vous a dénoncé?
Parce que vous savez, les gens qui étaient jaloux, méchants. Mmh. Il y avait des Français qui ne valaient pas cher, vous savez.
Il y a eu de la résistance dans le coin?
Oui, il y a eu de la résistance. À ce moment-là, on ne savait pas grand-chose de la résistance. C'est surtout en 43-44 qu'il y a eu beaucoup de résistance. Mmh. Moi, je vous dirais que j'ai jamais fait de résistance. Parce que je trouvais que c'était de la résistance, c'était pas honnête de tirer dans le dos des gens comme ça. Enfin, franchement, j'étais pas beaucoup pour tout ça.
Vous étiez pas beaucoup pour la résistance?
À ce moment-là, on était pour Pétain.
Eh oui. Et vous l'êtes resté?
Et je suis resté pour Pétain.
Même maintenant, là, aujourd'hui?
Ben maintenant, que vouliez-vous faire? Ils étaient les maîtres, ils faisaient de nous ce qu'ils voulaient, hein. Ben forcément, quand De Gaulle est arrivé, là, c'était pas pareil.
Ah, là, vous étiez pour De Gaulle.
Ah, ben là.
Ah, qu'est-ce qui arrive, là? Il y a deux tiroirs qui arrivent, là. Ah, c'est les tiroirs de souvenirs, ça.
Ah, voilà, c'est ça.
Hein?
Je n'y vois pas.
Qu'est-ce que c'est, ça? Une petite boîte en cuir que la belle fille ouvre avec une médaille.
C'est Pétain.
Ah.
Et ça, ça doit être...
Offert par Monsieur Descours de Sacre,
ah,
sénateur.
Oui, qui est décédé il n'y a pas très longtemps.
Ça date de quand, ça, alors?
42.
Le 9 mai 42.
Le 9 mai 42, voilà, il y a la lettre qui va avec. État français, eh oui,
Madame,
État français.
J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir venir à mon cabinet vendredi prochain 15 mai à 11h. J'aurai le plaisir de vous remettre la médaille décernée par le chef d'État aux cultivateurs les plus méritants à l'occasion de la fête du travail. Veuillez agréer, madame, l'assurance de mes sentiments les plus distingués.
Voilà.
Le préfet.
Ouais. Ça, c'est pas touché.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Bah, c'est
C'est Pétain.
Et ça, encore une médaille.
Pétain.
Eh oui. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a dessus? Dites-moi. Travail, famille, patrie.
Voilà. Offert par le maréchal. Fête du travail 1942.
C'était la même chose que
Philippe Pétain, maréchal de France, chef de l'État.
Voilà. Et pourquoi vous avez eu cette médaille-là?
Parce que j'avais bien tenu la ferme pendant que j'étais toute seule.
Voilà.
Ils en retrouveront toutes les couleurs après moi. Parce que je garde tout. Toutes tes lettres, tout ça, j'ai tout ça. Toutes tes lettres. Toutes tes lettres que tu m'as écrites pendant la guerre.
Ah oui. Ben, j'essayais que tu me restes fidèle, hein. C'est par les lettres qu'on s'entretient. C'est avec tous ces petits Canadiens là, c'est qui couraient après les femmes.
Les pauvres Canadiens, ils avaient autre chose à faire que de.
Eh oui, on commémore le jour où le jambon tomba et on tombe dans la France profonde qui évoque ces années noires, comme on dit, ces années douloureuses où les Français ne s'aimaient pas. Mais c'est pas partout et toujours dans ce tout petit village aussi joli et aussi idyllique que ça.
Tu peux rien dire?
Non, puis elle a eu un frère qui est...
Qui est décédé à cause de ça, alors vous
savez. Non, mais dites-moi un petit peu votre avis, madame.
Non, mais elle va pas vous parler, non, parce que...
Ah. Elle... Vous pouvez passer par là, je vais vous le dire.
Ah oui, c'est pour ça.
Il nous a donc fait assez voir. Oh non. Quand on voyait qui pendait les malheureux et gamins, des crochets de boucher, là, ça m'a tout fait.
Ah, dis deux mots, quand même.
Mon père était charcutier, c'était le corps. Il pendait les enfants à des crochets de boucher, ça va plus. Alors, je suis pas d'accord. Il a eu la diphtérie, il en est mort. Moi, j'ai failli y passer aussi. Alors, terminé. Bon, surtout dans ces âges-là. Ceux de la génération de maintenant sont différents, mais ceux qui sont passés par ici, au moins des soldats, non. Je suis pas d'accord. Absolument pas. Faudrait aider tout le monde maintenant. Nous, on nous a jamais aidés. Quand on était sinistrés, on n'avait plus que nos affaires sur le dos. Uniquement. Rasé la maison. Mais puis ma mère, elle a retrouvé son livret de famille dans les champs.
Et vous n'êtes pas prêt à lui accorder le pardon, alors, à ce soldat-là, qui vient le demander à travers le jambon, là?
Non. Je ne dis pas la génération actuelle. Il faut croire qu'ils ont changé. De toute façon, ils étaient poussés par... comme Hitler, tout ça. J'étais un... Non. Moi, c'est fini. Il faut que me... Toute ma famille est passée, heure terminée, vous savez. C'est trop dur. Moi, je comprends pas les gens qui pardonnent. Non. Je ne vais pas pardonner ça.
Il y en a d'autres comme vous qui pensent comme ça, non?
Oui, mais... Ah oui, certainement, oui.
Alors, bon, ben, c'est sûr qu'il y en a qui peuvent pas accepter ça. Hein, ça c'est... Mais l'Allemand, hein, c'est bien ce qu'il disait hier, lui, il voulait même pas être militaire. Hein, c'est celui-là, hein.
Vous êtes plutôt enclin à lui le pardonner?
Bah, c'est-à-dire, c'est la roue qui tourne, hein. C'est... Si tu pensais maintenant, faut penser à venir, hein. C'est surtout ça.
Mais alors vous êtes pas d'accord là entre vous là?
On n'en parle pas.
Parce que moi je vous ai vu à la mairie, monsieur.
Oui, hier soir. Bah, moi j'étais, je vous dis franchement, c'est parce que je connaissais bien Madame Marie.
Ah oui.
Puis bon, moi c'était quand même un petit événement d'un petit pays comme ça, hein. C'était ça, hein, surtout.
J'ai dit à mon mari, j'ai dit vas-y si tu veux, je t'en empêche pas, mais moi je n'y vais pas. Je vais pas aller voir un Allemand qui a fait des misères. Heureusement qu'on a eu Général de Gaulle pour nous sauver, parce que ça aurait pas été beau.
Un petit événement pour un petit pays, en fait, vous avez compris, c'est un grand événement pour peut-être ce qui a été, ce qui est et ce qui sera un grand pays.
Hans, est-ce que ça s'est passé comme vous l'espériez, cette rencontre ?
Ja, voll erfüllt.
Tout à fait, à 100%.
Vous savez que hier à la mairie, tout le village n'était pas là. Majoritairement, les gens étaient saluent votre geste, mais il y avait quelques résistances.
Dass es Leute gibt, die nicht dafür sind, verstehe ich. Wenn ich Familienvater bin, habe viele Angehörige meiner Familie durch den Krieg verloren, den die Deutschen ja begonnen haben, habe ich Verständnis dafür.
Non, je peux comprendre que des gens qui ont vécu la guerre, qui ont perdu les leurs, puissent ne pas avoir digéré ces événements, ne pas ressentir de sentiments particulièrement favorables à mon égard ou à notre égard.
Ich bin ja auch hier hingekommen, um eine Entschuldigung zu bitten, dass ich überhaupt Soldat in Frankreich war.
Oui, je suis venu ici pour demander, pour me faire pardonner simplement, et surtout, le fait d'avoir été soldat en France.
Dafür möchte ich mich entschuldigen bei den Leuten. Aber ich konnte nichts dazu. Also es lag nicht in meiner Macht, ja oder nein zu sagen.
Mais j'y pouvais rien, il n'était pas en mon pouvoir de dire oui ou non.
Diktatur ist Diktatur.
La dictature, c'est la dictature.
Toute votre vie, le souvenir de Madame Marie, cette fermière, vous a hanté.
Nein, die war nicht ständig da. Das kann nicht ständig da sein. Der gesamte Krieg kann nicht ständig da sein, sonst wird man nicht damit fertig. Das wird verdrängt. Man hat ein Leben, man muss schaffen, man muss dies für die Familie sorgen. Aber wenn man daran denkt, dann kommen die Emotionen.
Non, il n'était pas permanent, parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas penser en permanence à la guerre et à ses souvenirs. C'est très souvent refoulé pour pouvoir survivre et pouvoir faire autre chose. Dès qu'on pense à ça, l'émotion arrive et...
Voilà. Vous pleurez là, ouais.
Das waren die schrecklichsten Zeiten meines Lebens. Es waren nur 3 Monate, aber diese 3 Monate waren so schrecklich.
C'était la période la plus horrible de ma vie. Ça a duré 3 mois, mais ça a été ce que j'ai vécu de pire.
Das kann man nicht vergessen, kann man nicht verdrängen.
On peut pas l'oublier, on peut pas le refouler.
Ja, ist die Schinken Situation eigentlich humorvoll in dieser Sache.
Ouais, dans cette affaire, le jambon c'est de l'humour.
Bien sûr, bien sûr.
Bien, ben on va prendre congé parce que monsieur doit se préparer à prendre son train. Et
forcément, on va bien vous remercier.
Oh, Marie.
Et puis merci. Et puis bien des
alles
choses
gute.
À madame.
Oui. Alles Gute.
Tous mes voeux de santé.
Pour viele Jahre im Kreise der großen Familie.
Et je vous souhaite encore de belles et longues années dans le cercle dans le cercle de la famille. Voilà.
Und dass ihr keine schweren Leiden bekommt.
Et pas de maladies graves.
Espérons.
Voilà. Allez,
au revoir. Et merci
de tout. Au revoir. Alles gut. Und Sie sprechen noch ein bisschen Deutsch. Ein bisschen.
Merci.
Alles Gute à tous. C'était le jour où le jambon tomba. C'était un reportage de Thierry Schaff. Plus d'informations à votre disposition sur le site La Basse, j'y suis, en allant sur franceinter.com. Technique aujourd'hui, Gabriel Rouchaville et Mathias Alléon, Coyen Guyenne, Christophe Imbert et Pascal Le Pascariello, c'est l'équipe. Le numéro du répondeur, c'est 01 56 40 37 37. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Le journal Delphine Simon. À demain. Salut!